Le silence à silence, c'est pas trop bon. Rien du tout. Là, il y a du bruit. Là.
Récréation sonore. Jérôme Massella au micro. Sur Radio Campus Paris. Aujourd'hui, je reçois Isa Stragliati autour de sa série Jeanne D, un docu-fiction en 3 épisodes, produit en 2022. Bande-annonce.
L'appartement du tournage, il est dans le quartier, là, il est pas loin ou...
Non, c'est pas loin.
On peut y aller à pied ?
À pied, c'est une petite balade.
Il n'y a pas d'indication de, d'intérieur ou de, d'extérieur
non, non,
ou des...
Non, c'est pour ça que je me dis, moi en tout cas, que ce n'est pas le scénario de tournage, parce que généralement dans les scénarios de tournage, il y a ce genre d'informations.
Ou alors on aurait pu avoir un plan de travail où il y aurait les adresses des lieux. Mais ça, ça a disparu.
J'essaie d'identifier ce magasin-là, la mercerie.
Mais... Ça ne me dit plus rien. Rien. Je ne sais plus.
Je cherche un cordonnier, cotillon, coupole, une mercerie, mercerie détail. Je recherche un endroit qui était chaussé de monts, c'était un cordonnier. C'était en 1975, hein, donc c'était il y a longtemps, mais c'était peut-être ici.
C'est tout droit, non? C'est tout droit, ça.
C'est où?
Tout droit à gauche. Oui, à gauche.
C'était important. C'est le nom de quelqu'un avec une adresse. Oui. Ce que Chantal voulait faire, c'est authentique avec les lieux dans Bruxelles. Hein, parce que c'était quand même... une histoire qui devait pouvoir résonner pour les gens qui habitaient Bruxelles.
Je fais une recherche sur un film qui a été tourné dans le quartier et je recherche les lieux, même l'équipe du tournage en fait.
C'est pas ici.
C'est ici en fait.
Mais
regarde.
Mais quel film ? De quoi vous parlez ?
Jeanne Dielman.
C'est ça ?
Isa Stragliati, bonjour.
Bonjour.
Alors, première question, comment en es-tu venue à faire un documentaire de presque 3 heures sur Jeanne Dielman ?
Alors, je crois que tout est parti de ma rencontre avec le cinéma de Chantal Ackerman. Je suis vraiment tombée en amour pour le cinéma de Chantal quand j'avais 24 ans. Je faisais des films à l'époque aux Beaux-Arts de Grenoble. Voilà, ça a été vraiment un choc quand j'ai découvert son cinéma. C'est un peu difficile à expliquer, mais... Et j'ai toujours cette sensation quand je vois ses films. Je me sens à la maison, en fait, quand je vois son cinéma.
Et alors, tout de suite, il y a eu comme une évidence ou un désir embryonnaire de faire quelque chose en lien avec ce cinéma ?
Non, pas immédiatement. Le désir, vraiment, du documentaire est arrivé à Bruxelles, lors de mon premier voyage à Bruxelles. Nous sommes allés au 23 Quai du Commerce, nous sommes rendus là-bas. Et j'ai ressenti une émotion assez forte. Et c'est en me baladant ensuite dans les rues de Bruxelles où l'idée d'en faire une enquête radiophonique pour retrouver les traces de Jeanne Dielman dans Bruxelles et de retrouver les lieux du tournage. Les lieux, c'était quelque chose de fort. Enfin, il y avait vraiment quelque chose de fort que je ressentais par rapport aux lieux. Et de retrouver aussi les personnes qui ont participé au film, les membres de l'équipe du film. Donc ça, oui, l'aspect enquête, c'était immédiat. Vraiment, j'ai encore la sensation de marcher dans les rues de Bruxelles et d'avoir cette envie de, de chercher les lieux du tournage. Après, l'idée est restée au stade embryonnaire à ce moment-là. Et l'idée a été réactivée à la mort de Chantal Ackerman en 2015. Et cette disparition m'a vraiment touchée fort. Et ça m'a surprise d'être aussi touchée, parce que en fait, je ne la connaissais pas, enfin, je ne l'avais jamais rencontrée. Et donc là, le désir est revenu très fort, quoi, de mettre en forme cette idée. Parce que la première idée, il y avait plus ou moins l'envie de, pourquoi pas, faire participer Chantal d'une façon ou d'une autre. Et voilà, et après sa mort, je me suis dit qu'il fallait que je le fasse seule, du coup. Et c'est là que j'ai commencé à l'écrire, donc en 2015. J'ai fait une demande de subside au FACR, puisque c'est un projet qui parle de culture belge francophone. Et c'est la première fois que j'écrivais autant un projet, mais ça m'a beaucoup aidé en fait à structurer par la suite. Et très vite, en fait, j'ai dépassé l'idée de documentaire pur et d'enquête radiophonique pure.
Mais alors, comment est-ce qu'on passe de l'idée au projet? J'imagine que c'est un processus assez douloureux.
Ouais, c'est toujours un peu douloureux de mettre en forme des idées. Et en mots et en son, parce que il faut entendre le son quand on écrit un projet radio, parce qu'on n'écrit pas une thèse. Oui, je me souviens de moments assez douloureux, compliqués, où je m'en sortais pas. Et donc j'ai beaucoup lu, je me souviens, je faisais des schémas.
Mais alors justement, quand on est dans le désir et qu'on passe plusieurs jours, plusieurs semaines à structurer un désir abstrait, on peut complètement dénaturer le projet aussi. Est-ce que cette première version du projet documentaire couché sur papier était fidèle à ton désir premier?
Alors, je pense qu'elle y était fidèle. Je pense que le premier projet écrit était un peu trop intello. En tout cas, c'est ce qu'on m'a... Je pense que c'est un peu les retours que j'ai eus. Et peut-être que le désir premier, l'envie, n'est pas assez ressorti, ou le désir sonore n'est pas assez ressorti du premier projet. Parce que je n'ai pas eu ces subsides, et j'ai présenté deux fois le FACR. Et une fois Gulliver, Brouillon d'arrêt, enfin j'ai tout essayé, je n'ai pas eu de, de fonds pour réaliser ce projet. Donc quelque part, je n'ai pas réussi à transmettre ce désir-là par écrit, en tout cas.
Oui, parce qu'il faut à la fois être extrêmement structuré, il faut vraiment qu'on comprenne la trajectoire du documentaire, et en même temps, il faut qu'apparaisse une réelle passion pour le sujet. Il faut qu'on soit à la fois dans l'intellectuel et dans l'émotion.
Bah oui, c'est toute la difficulté d'écrire des projets avant de les avoir réalisés. Alors moi, j'ai un peu triché parce que j'avais un peu commencé à tourner, puisque j'étais à Bruxelles au moment où je commençais à écrire, et je suis retournée Quai du Commerce. Et c'est là que j'ai vu une annonce sur la porte du 23, une annonce d'appartement à louer. Et c'est comme ça que j'ai rencontré une des personnes qui va participer à Jeanne D. Et ça s'est fait par hasard, en fait. Je n'avais pas prévu de commencer si tôt le tournage. Donc, c'est ce qui m'a permis aussi de partir sur des bases concrètes. Parce que c'est très difficile, en fait, d'écrire... Enfin, sur certains dossiers, on vous demande même d'écrire une scène d'un documentaire, ce qui est complètement, complètement dingue. voilà.
Dans ta série, qu'est-ce qui a déclenché le tournage concret?
Une annonce sur la porte du 23 Quai du Commerce. J'avais pas prévu de commencer le tournage aussi rapidement. J'étais encore en écriture. J'avais déjà déposé une fois le FACR qui avait été refusé. Donc j'étais en train de préparer la deuxième session, donc de réécrire le projet. Et j'étais en résidence à Bruxelles. Je me suis rendue un peu en pèlerinage au Quai du Commerce. Et j'ai vu cette annonce, cette affiche orange fluo, appartement à louer. Et je me suis dit que c'était un signe et qu'il fallait que j'appelle ce numéro. Et ça m'a permis de rencontrer Bart. Il m'a fait visiter l'appartement qui ne m'intéressait pas du tout. Il l'a senti. Et il m'a proposé d'aller chez lui, ce qu'on entend en intro de Jeanne D, en fait. Et il se trouve qu'il avait travaillé avec deux des membres de l'équipe du film, de Jeanne Dillman. Ce qui est quand même assez, c'est quand même assez dingue. Pour moi, c'était le signe... c'était un des nombreux signes qui m'ont confirmé à chaque fois que, qu'il fallait que je le fasse et que c'était maintenant, quoi.
Alors moi, j'aimerais quand même qu'on parle de ce moment où on a écrit ce qui allait se passer et on va sur le tournage et, a priori, il va se passer autre chose. Comment tu as vécu ce moment où le réel prend le dessus sur ce qui a été écrit ?
Je crois qu'à ce moment-là, je me laisse porter. Et je n'avais pas forcément pensé à comment j'allais aborder les personnes ou rechercher les membres de l'équipe du film. Je ne m'étais pas encore projetée dans le concret. Mais j'imagine que je serais passée par des voies classiques de chercher un contact sur les réseaux, un mail. Et là, voilà, on me donne sur un plateau le contact de, ou le lien direct avec deux personnes qui ont participé au film. Donc, oui, c'est ce qui peut-être accentue le côté enquête, c'est-à-dire que c'est un premier fil que je tire. Bon, je suis rentrée avec ces premiers enregistrements, ces premiers entretiens. J'ai continué à écrire le dossier avec l'idée de contacter d'autres personnes et... quand j'ai rencontré les premières personnes, oui, peut-être ils m'ont donné des noms. Et j'ai fait plusieurs autres visites après à Bruxelles. J'ai eu une autre résidence d'un mois. Donc voilà, le tournage s'est fait comme ça en plusieurs étapes et souvent lié à mes moments au moment où j'étais à Bruxelles. Parce que c'était un projet autofinancé aussi et que je voulais un peu rentabiliser mes allers-retours à Bruxelles. Parce qu'à l'époque, j'habitais à Grenoble, donc ce n'était pas non plus tout à côté. Et c'est aussi, oui, par les rencontres que j'ai faites qui m'ont permis de prendre contact avec des personnes que je n'avais pas forcément pensé contacter. Babette Mangold, par exemple, qui est la chef opératrice de Jeanne Dillman, qui habite aux États-Unis. Donc, pour moi, elle était hors... Enfin, je n'avais même pas considéré le fait de la contacter puisque je n'avais pas envie de faire un entretien téléphonique. Et c'est Boris Lehmann qui m'a demandé pourquoi je ne contactais pas Babette Mangold. Et je lui ai dit que c'était pas possible. Elle me dit « Ah, mais contacte-la quand même. Elle vient souvent en France. Elle vient tous les ans en France, donc contacte-la quand même. » Et effectivement, elle était en France quelques semaines après. Et j'ai fait un aller-retour à Paris pour l'interviewer. Donc voilà, c'est aussi par les rencontres des membres de l'équipe du film qui m'ont permis de considérer des personnes que je n'avais pas envisagées au départ.
Oui, mais alors d'un côté, il y a... Un dossier que tu as très bien structuré et de l'autre tu me parles de rencontres qui ont l'air extrêmement spontanées. Comment les deux cohabitent ?
Le dossier c'est une trame en fait. C'est vrai qu'il était extrêmement écrit et structuré, mais au moment du tournage il faut s'en affranchir aussi un peu quoi, parce que sinon on peut passer à côté justement des rencontres et du hasard quoi, de ce qui n'était pas prévu et ce qui peut être dit, parce que si on a une idée trop précise de ce qu'on veut entendre et enregistrer, on peut passer à côté, on peut foirer complètement un entretien en fait.
Mais est-ce que tu veux dire que ce qui est important, c'est de savoir écrire un projet pour avoir les idées claires, pour les oublier en partie au moment du tournage, pour avoir les idées encore plus claires ?
Oui, il y a quelque chose de ça. Après, moi, ça m'a aussi beaucoup aidé à maintenir ma posture de mon personnage en fait, de tenir ma position de je joue mon propre rôle et je suis aussi un personnage qui va devenir obsédé par Jeanne Dillman et partir à sa recherche dans les rues de Bruxelles. Donc si j'avais pas écrit vraiment, je pense que j'aurais pas du tout mené les interviews de la même façon, notamment avec Yann De Cort qui joue le fils de Jeanne Dillman dans le film. Donc là, en ça, oui, l'écriture m'a beaucoup aidée. Là, à ce moment-là, pendant le tournage, parce que c'était pas évident quoi, de maintenir cette posture-là, parce que j'avais vraiment l'impression qu'il ne comprenait pas du tout où je voulais en venir, et j'avais l'impression de passer un peu pour une folle. Quoi. Donc si je n'avais pas eu ce truc-là... Je me serais peut-être perdue ou j'aurais mené l'interview de façon beaucoup plus classique et ça n'aurait pas du tout ça aurait pas été pareil quoi.
Mais donc ce dispositif là tu l'as jamais quitté
si je pense qu'au départ c'était moins affirmé les premières rencontres par exemple, Mais plus l'écriture s'est précisée, plus j'ai maintenu. Et aussi, ça dépendait des personnes que je rencontrais. Avec Yann Decorte, c'était vraiment essentiel, en fait, que j'ai cette position-là, quoi. Je pense que si j'avais abordé ce projet comme mes projets précédents, c'est-à-dire juste avec une idée, un synopsis et pas d'écriture très, très définie, je pense que je l'aurais abordé comme un documentaire classique où je prends contact avec des personnes, je les rencontre, je fais une interview, je leur demande comment le tournage s'est passé et ça se serait arrêté là. Peut-être j'aurais trouvé quelque chose au montage, mais en tout cas, il n'y aurait pas eu d'aspect fictionnel, il n'y aurait pas eu de forme de mise en abîme, il n'y aurait pas... Voilà.
Et alors, combien de temps a duré ce collectage? Et surtout, à quel moment t'es-tu dit que c'était assez?
Alors, il a commencé en 2016. Je pense que ma résidence d'un mois, c'était en 2018. Donc, je pense que le tournage s'est arrêté en 2018, ouais.
Mais en termes de volume, en termes de volume d'enregistrement, à partir de quand on se dit, bon, là, j'en ai trop, là, je dérape, bah, éventuellement. Comment ça s'est passé, la fin du tournage?
J'avais une liste de personnes que je voulais voir figurer dans Jeanne D. Et c'est là aussi que le projet écrit m'a aidé. Donc j'ai vérifié qu'est-ce qui me manquait. Je me suis projetée dans le montage et à un moment j'ai constaté que j'avais la matière qu'il me fallait. J'avais les ambiances, j'avais des matières d'interview, j'avais rencontré les personnes que je voulais rencontrer et c'était suffisant. J'avais pas retrouvé forcément tous les lieux que je cherchais, mais en tout cas j'avais suffisamment de matière pour faire quelque chose. Et après j'étais très heureuse au moment du montage avec justement ce brouillard de rush que j'avais commencé à collecter plusieurs années auparavant. Donc je les avais peut-être dérushés 2 ans auparavant. Il fallait que je me replonge dedans. Je ne sais plus exactement combien d'heures de rush j'avais, mais pas mal. C'est là que j'ai aussi énormément apprécié d'avoir cette trame écrite.
Et est-ce que tu es sortie de ton dossier? Est-ce que tu as fait beaucoup d'entretiens qui auraient pu paraître hors sujet?
Est-ce qu'il y a eu des changements? Pas tellement, je crois pas.
Mais au moment où tu fais les collectages, tu sais que ça va être diffusé?
Ah non, pas du tout. Non, ça c'était un des doutes justement. Pourquoi je fais ça? Qu'est-ce que ça va devenir? Quand est-ce que je vais pouvoir le terminer? Où est-ce qu'il va pouvoir être diffusé? Est-ce que je vais pouvoir utiliser des extraits du film? Oui, il y a beaucoup de questions et beaucoup d'inconnus.
Mon père, comment tu l'as rencontré?
Pourquoi tu me demandes ça juste maintenant?
Je venais de lire le mot miracle et je pensais à tante Fernande qui disait toujours qu'elle avait rencontré Jack par miracle.
Oui, il est venu en 44 nous délivrer et jeter des chewing-gums et du chocolat. Et nous, on leur jetait des fleurs. Et ton père, je l'ai rencontré quand les Américains étaient déjà partis. Moi, j'habitais chez les tantes parce que mes parents étaient morts. Et un jour, j'étais allée au bois de la Cambre avec une amie. C'était un samedi. Je me souviens plus quel temps il faisait. Mon amie le connaissait. Tu sais bien quel ami. Je l'ai déjà montré sur des photos.
Pour vous, c'est qui, Jeanne Dielman?
Pour moi, c'est quelqu'un avec une vie effroyable. C'est un personnage. C'est un personnage qui me fend le cœur. Mais. Bon, à cause de tout ce que je sais de Chantal, pour moi, c'est un personnage qui est un mélange de personnes qu'elle a côtoyées dans son enfance, de ces femmes qui tiennent le coup à force de gestes répétitifs. Et c'est des personnages comme... je voudrais pas qu'il en existe. C'est des vies pour moi tellement, tellement atroces. Donc c'est Kijan Dillman et en même temps c'est cette tenue incarnée par cette par Delphine. Donc à la fois c'est des vies catastrophiques mais avec des gens qui se tiennent extrêmement bien. Difficile d'en dire plus, mais pour moi c'est un anti-personnage. Elle me fait horreur en fait. Elle me fait horreur. Tout ce qu'elle fait me fait profondément horreur. Et toute ma vie, c'est ne pas être comme ça. Surtout ne pas être comme ça.
Alors maintenant, Isa, j'aimerais qu'on parle du montage. Comment toi, déjà, avant de parler de Jeanne D, tu appréhendes généralement cette étape ?
Moi, j'aime beaucoup le montage. Je vais pas citer Jean-Luc Godard, mais si, je pourrais. Montage, mon beau souci. C'est un peu ça, quoi. C'est quelque chose à la fois de douloureux et en même temps qui m'habite fort. Que j'ai découvert via ma première pratique de fabrication de films quand j'étais au Beaux-Arts. J'aimais beaucoup cette étape du montage. Que j'ai retrouvé par la suite par ma pratique de DJ, que j'ai un peu abordé comme une pratique de montage avec les sons, et que je poursuis avec cette pratique radiophonique qui est arrivée par la suite. Et mes premiers projets radiophoniques, je dirais que presque tout le travail se faisait au montage. Le travail d'écriture se faisait au montage, en fait. J'écrivais quasiment pas mes projets. Voire, j'ai fait des créations à partir de rushs et de matières sonores disparates. Donc il n'y avait pas d'écriture préalable avant le tournage. Et j'aimais beaucoup les accidents et les deux matières qui se retrouvent à cohabiter. On n'avait pas prévu et ça fonctionne. Enfin, il y a quelque chose qui se dégage, une émotion, quelque chose. Alors là, c'était un peu différent parce que j'avais cette trame très écrite et qui m'a vraiment aidée à ce moment-là où je me suis retrouvée avec cette masse de rush que j'ai dû réécouter. Et ça m'a pris un certain temps parce que, je sais pas, j'ai peut-être une vingtaine d'heures de rush, peut-être. Et entre la fin du tournage, qui était en 2018, je pense que j'ai commencé le montage en 2020. Parce que j'avais d'autres projets à terminer entre-temps. Donc voilà, il s'est encore passé du temps et il a fallu vraiment que je me replonge dedans. Là, je me souviens de cette étape-là où me dire, bon, OK, maintenant, je le finis et je me remets dedans. Et là, c'était douloureux, quoi.
Mais est-ce que tu penses qu'il aurait été préférable de travailler les rushs immédiatement après le tournage ? Peut-être que ça n'aurait pas été mieux.
C'est difficile à dire. Je pense que c'était bien d'avoir du recul. Ouais. Oui, parce que j'ai réentendu des choses. Enfin, j'ai entendu des choses que j'avais pas entendues sur le moment au tournage et au premier dérochage, par exemple. Mais devant toute cette masse, j'ai eu une petite angoisse et je me suis rendu compte que ça faisait quand même beaucoup et qu'il y avait beaucoup de choses que j'avais envie de laisser. Et j'étais très contente d'avoir cette trame à laquelle me raccrocher.
Alors, on n'en a pas parlé, mais ce projet que tu as envoyé au FACR, c'était déjà une série de trois épisodes ?
Non, le projet initial écrit, c'était 50 minutes. Je ne sais pas comment j'aurais pu tout faire rentrer dans 50 minutes, mais si je voulais tout faire rentrer dans 50 minutes, il fallait que je fasse un montage très, très, très rapide et dynamique. Et ce n'était pas du tout cohérent avec l'esprit du film. Je n'avais pas du tout envie de faire ça. Parce que Jeanne Dillman, si les auditeurs, auditrices n'ont pas vu, c'est vraiment un film qui prend le temps. Pour moi, c'était aussi important de laisser le temps, de prendre le temps, même dans les entretiens, de laisser les silences, par exemple, de laisser venir les choses. Et ça, je ne pouvais pas le faire en 50 minutes. Donc c'est là que j'ai réalisé que ça allait être plus long et que la structure en trois parties s'est imposée. Puisque le Jeanne Dillman, c'est 3 jours de la vie de Jeanne.
Mais alors justement, moi, Je me demande, est-ce que tu as vécu le montage comme une réécriture, une remise à plat totale du projet ?
Non. Non, ça, j'ai assez peu de souvenirs de ce moment-là. Je me souviens aussi que c'était aussi une épreuve de se mettre au montage, après l'épreuve de réécouter les rushs, et que ça a demandé vraiment une forme de discipline. Je travaillais seule chez moi, donc voilà, c'était... est-ce que ça a tout remis en question ? Non, non, ça je suis sûre que non. Parce que j'avais quand même toujours cette structure et cette trame à laquelle je me suis quand même beaucoup raccrochée, surtout dans les moments de doute. Je ne sais pas s'il y a des choses complètement nouvelles qui ont émergé au montage.
Mais alors, est-ce que, comment les choses se sont structurées concrètement ? C'est-à-dire que, est-ce que tu avais trois épisodes, trois fichiers que tu as travaillé dans l'ordre, ou est-ce que c'était... un grand documentaire qui durait 2h30 que tu savais ou pas que tu allais scinder. Est-ce que tu as commencé par le début pour aller à la fin, ou est-ce que les choses se sont développées en parallèle ?
Alors, un peu des deux, je dirais. J'ai commencé avec une seule session de montage. J'ai commencé à organiser mes rushs selon la structure que j'avais en tête. Et c'est là que j'ai élagué, que j'ai affiné et que j'ai déterminé les différentes parties. Donc je suis partie d'un premier fichier unique et ensuite j'ai divisé en trois parties quand c'était plus clair, là où je voulais couper et là où je voulais et ensuite quand ça c'est devenu clair, j'ai vraiment retravaillé la première partie. Après j'ai fait de façon chronologique, quoi. Il y a toujours quelque chose d'un peu magique au montage, où il y a des échos entre différentes matières différentes. Et là, dans les entretiens, il y avait des échos, par exemple. Et j'ai aussi été aidée énormément par Michel Créis, qui a fait le mixage. C'était aussi extrêmement important d'avoir une oreille extérieure à ce moment-là. Enfin, je n'avais pas envie de faire le mixage moi-même. J'aurais très mal fait. Mais j'ai des notions de mixage, mais j'avais envie que ce soit fait par quelqu'un de professionnel. Et d'avoir cette chance incroyable de travailler avec Michel Créis. C'est un des mixeurs radio, je pense, les plus respectés en France. Il y a eu un atelier de création radiophonique sur son travail, en mixage avec Michel Créis, qui est toujours, je pense, en écoute, en podcast sur le site de France Culture. Et j'avais été invitée pour mixer aux 10 ans de l'association Adore. Et je parlais avec Irène, qui a suivi un peu toute la genèse de Jeanne D, et qui me demande où en est le projet. Donc je lui dis, je recherche quelqu'un pour le mixer. Elle me dit, parle-en à Michel. Je dis, Michel Créis. Et moi, je connaissais Michel Créis parce que j'avais écouté justement ses émissions. Et il était là, et donc je lui ai parlé. Je lui ai donné ma carte, ce que je ne fais jamais. Et 2 jours plus tard, il m'a rappelé. En me disant, ah oui, j'ai écouté les choses sur votre site, je lui ai proposé qu'on se rencontre. Et voilà, la rencontre a été très, très chouette et on s'est trouvé plein de points communs. On s'est rendu compte qu'on aimait les mêmes choses en radio, qu'on détestait les mêmes choses en radio. Et au bout d'un moment, il m'a dit, mais qu'est-ce que je peux faire pour vous ? Et donc voilà, c'est là que je lui ai parlé de Jeanne D. Et il m'a dit, bah oui, oui, ça m'intéresse.
Et donc, pour conclure nos trois entretiens, comment décrirais-tu cette série après 10 ans de travail dessus ?
C'est difficile de sortir de la réponse automatique que je fais quand on me pose cette question, qui est c'est une enquête radiophonique autour du film de Chantal Akerman, Jeanne Dielman, 23 Quai du Commerce, 1080 Bruxelles. Alors après, si je développe, je peux dire que c'est une enquête radiophonique. C'est une enquête sur le film qui se transforme en quête obsessionnelle du personnage de Jeanne Dielman. Est-ce que c'est une quête personnelle aussi ? Sans doute. Ouais, je ne sais pas. Difficile d'en dire plus.
Est-ce que tu es satisfaite du résultat ?
Oui. Oui, je suis satisfaite et je suis satisfaite d'être arrivée au bout. sans financement. Enfin, c'est vrai que j'insiste un peu là-dessus, mais c'était un aspect difficile d'avoir un projet sur un temps long sans aide financière. Alors, bon, dans les faits, il ne m'a pas coûté énormément d'argent financièrement, il m'a coûté beaucoup de travail. Voilà.
C'est la fin de notre entretien avec Isa Sragliati. Vous pouvez retrouver la série Jeanne D sur le site radiola.be. À bientôt sur Récréation Sonore, sur Radio Campus Paris.